Bonjour. Vous allez bien? Parfait, ça. Prions. Seigneur notre Dieu, mon âme te loue encore ce matin pour ta grâce. Merci pour le privilège que tu nous donnes de lire ta parole et de comprendre ce que tu avais de merveilleux pour nous. Le plan que toi tu avais tracé pour chacune de nos vies. Et Seigneur, ce matin, je veux m'effacer et te laisser la place. Enseigne-nous ta parole, Seigneur, afin que nous puissions continuer à grandir dans notre foi. Que ton nom soit loué, parce que c'est toi notre Dieu. Nous t'aimons, Seigneur, et nous voulons refléter ton nom à travers le monde. Au nom de Jésus. Amen. Serge m'avait demandé de lui envoyer le thème de mon message. Et j'ai envoyé mon thème jeudi soir. Je ne sais pas si Serge a eu le temps de parler avec Kathleen puis Fred et toute l'équipe de la jeunesse, mais je suis édifié de voir comment Dieu peut faire des choses. Je vais prêcher sur la foi aujourd'hui et la présentation qu'on a vue vidéo et le thème abordé, c'est quasiment ce que j'avais prévu dire. Et je loue Dieu pour ça. On ne s'était pas parlé et on voit comment le Seigneur fait les choses. Il y avait un homme, à la fin de l'année, il voulait faire le bilan de ce qui s'était passé dans l'année. Et il a vu toutes les actions, tous les événements qui sont arrivés dans sa vie cette année-là. Dans l'année, il avait rencontré son médecin. Son médecin lui demande comment ça va. Il dit, ça va bien, mais il y a toujours des petits bobos. Le médecin dit, fais-moi confiance, on va regarder ça. Le médecin l'évalue. Après l'évaluation, le médecin lui dit, tu as un cancer de foie très, très avancé. Il ne te restera pas beaucoup de jours pour vivre. Cet homme s'en va. Il suit toutes sortes de traitements. Les traitements qui occasionnent encore d'autres maladies en lui. Et finalement, on vient vérifier qu'effectivement, il n'avait pas aucun cancer. C'était une mauvaise évaluation qui a été faite. Dans la même année, il est arrivé une période, il a travaillé tout le mois. Il a travaillé tout le mois. Il était payé au mois dans son pays. Il n'était pas payé à la semaine. Et à la fin du mois, un jeudi, il se lève, il dit, j'allais faire l'épicerie. Il arrive à l'épicerie, il passe sa carte, on marque fonds insuffisants. Il dit, quoi que se passe? C'est jeudi, la fin du mois, je suis supposé avoir mon salaire. Il appelle à la compagnie, on dit, ta compagnie a fait faillite. Les salaires n'ont pas été versés dans vos comptes. Ce monsieur avait passé toute la journée affamé avec sa famille. Dans la même année, un soir, il y a un voleur qui arrive chez eux. Il compose le 911, il appelle la police. Les policiers arrivent. Le voleur réussit à s'échapper et les policiers, par maladresse, y ont tiré sur son garçon. Son garçon est mort. Et pourtant, quand les policiers étaient arrivés, ils lui disaient, fais-nous confiance, on est arrivé, on va régler ça. Quelques mois plus tard, le feu commence à prendre dans son sous-sol. Il appelle encore la police, il appelle les pompiers, il appelle 911. Le pompier dit, inquiète-toi pas, on sera là dans 5 minutes. Les pompiers arrivent. 2 heures plus tard, la maison est toute brûlée. Tanné de vivre dans ce pays-là, il dit, je vais aller m'installer ailleurs. Change de pays. Dans le pays où il arrive, la guerre éclate dans ce pays-là. La guerre éclate dans ce pays. Ils sont pris en otage par les rebelles. Il s'organise à communiquer avec l'ambassade de son pays. Le pays envoie une intervention militaire. Les militaires arrivent. Ils disent, soyez en confiance. On va vous sortir de là. On va vous délivrer la main des rebelles. Par erreur, les militaires ont tué plus de civils qui étaient là. Ils n'ont pas pu en sauver. Lui, par grâce, il avait réussi à s'échapper. toujours dans son année difficile, un jour, il s'assoit avec sa femme et dit, « Chérie, tu te rappelles quand on s'était marié, comment on s'était promis la fidélité et que seule la mort nous séparera. Regarde l'année qu'on est en train de passer, difficile. On a perdu notre enfant, on a perdu notre maison, c'est difficile. J'ai perdu ma job, mais on va continuer à espérer. » Sa femme dit, « Je ne peux plus supporter ça, il faut que je parte. » Cet homme a perdu sa femme. Et il fait le bilan de son année. Il réalise que à tous ceux qui disaient « Faites-moi confiance, fais-moi confiance », la réalité c'est qu'il y avait des échecs. Il n'y avait pas de victoire. Mais un jour, une autre personne lui a dit « Fais-moi confiance ». Et c'est le Seigneur Jésus. Quelqu'un lui a parlé de l'Évangile. Il dit « Dieu te demande de lui faire confiance ». Et cette phrase sonnait pas bien dans ses oreilles. Parce que plusieurs personnes lui avaient dit de leur faire, confiance et ça tournait toujours mal. Lorsque nous étions sans Christ, la Bible dit de nous que nous étions morts dans nos péchés. On se confiait plus dans l'homme que dans Dieu. Et maintenant que nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, la Bible dit, le juste vivra par la foi. Si tu étais mort à cause de tes péchés, par la foi, tu vivras en Jésus-Christ. Et ce matin, effectivement, je veux que nous puissions parler de la foi. On va lire dans Galates chapitre 2, verset 20. Galates 2, verset 20, l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. L'apôtre Paul confirme qu'il a été crucifié avec Christ. Et aujourd'hui, s'il vit, c'est Christ qui vit en lui. Aujourd'hui, il vit dans la foi au Fils de Dieu. C'est le thème de mon message, vivre dans la foi au Fils de Dieu. Comment quelqu'un peut vivre dans la foi? C'est quoi la foi? J'ai été curieux, je suis allé voir dans le dictionnaire, c'était quoi la signification du mot foi? Et dans le Larousse, on dit la foi, c'est une adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse. Il donne une autre définition littéraire, il dit la foi, c'est un engagement que l'on prend d'être fidèle à une promesse. Une autre définition, le dictionnaire dit, la foi est toute adhésion ferme et fervente de l'esprit à quelque chose. La dernière définition que j'ai trouvée dans le dictionnaire, ils disent que la foi est une confiance absolue que l'on met en quelqu'un, en quelque chose. Je trouvais que dans le dictionnaire, il y avait quand même des bons termes qui sortaient de là. Je trouvais ça intéressant. Dans le dictionnaire, on dit que c'est une adhésion totale, une adhésion ferme et fervente, une confiance absolue en quelqu'un. Avez-vous la foi en Dieu? La foi, c'est cet élément que Dieu veut avoir dans ses enfants, veut voir dans ses enfants. Cet élément où Dieu veut voir comment ses enfants réagissent dans certaines situations, dans toute situation dans leur vie. Quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, quelle est la réponse que je donne à cette situation-là? Quel est le comportement que je manifeste à cette situation-là? Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour ceux pour qui la foi c'est une folie, que la foi en Dieu c'est quelque chose d'irréel, que la foi en Dieu, c'est n'importe quoi. Mais je voudrais vous rassurer aujourd'hui, la foi est effectivement ce moyen qui nous permet d'avoir la justification de Dieu. L'apôtre Paul, dans Romains, nous mentionne que tout le monde est pécheur. L'enfer et le ciel sont deux choses qui existent réellement, ce ne sont pas des fables. L'enfer existe Il y a ceux qui vont aller à l'enfer. Ce n'est pas des fables, ce n'est pas le mensonge, c'est vrai. Le ciel existe aussi. Il y a ceux qui iront au ciel. Et l'apôtre Paul, dans Romains, mentionne effectivement que l'homme est perdu sans Dieu. L'homme s'en va à l'enfer sans Dieu. Il dit « tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». J'aimerais qu'on tourne dans Romains chapitre 3. Et on va lire les versets 3 à 4 et à partir du verset 29 aussi. Romains chapitre 3. Et le verset 3, l'apôtre Paul dit « Et quoi ? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu ? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. » Ici, l'apôtre Paul mentionne que toute la connaissance que les Juifs avaient de Dieu, toute la connaissance qu'ils avaient de leur tradition, toute la connaissance qu'ils avaient de leur rite, toute la connaissance qu'ils avaient, tout le bagage qu'ils avaient, pour prétendre dire qu'eux, ils s'en allaient directement au ciel à cause des avantages charnels, physiques qu'ils avaient, par leur lien de sang, pour l'apôtre Paul dit, aujourd'hui, il y a une chose que vous devez comprendre. Le vrai juif, c'est celui qui accepte le sacrifice de Jésus à la croix. C'est celui qui accepte le plan de Dieu, qui a envoyé son fils Jésus mourir à la croix. C'est ce juif-là, effectivement, qui a compris le plan réel de Dieu. Il dit, alors, vous autres qui croyez à toutes sortes de choses, vous êtes des menteurs. La vérité, c'est ce que Dieu a révélé par son Fils. Croyez en ça, c'est ça la vérité. Verset 9. Quoi donc ? Sommes-nous plus excellents ? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, ni intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. L'apôtre Paul est en train de montrer à tout le monde que tu sois juif, que tu sois grec, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois quoi que ce soit, que tu sois magistrat, que tu sois philosophe, que tu sois le plus intelligent, que tu sois le premier ministre du Québec, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es perdu, tu t'en vas en enfer. Paul fait cette déclaration-là. Il dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La beauté de la chose, c'est qu'il ne s'arrête pas là. On voit au verset 21, il dit, « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Il dit, ouais, tout le monde est coupable. Tout le monde a péché. Tout le monde s'en va à l'enfer. Personne ne peut se présenter devant Dieu pour dire, moi, je suis correct. J'ai telle veste dans ma société. J'occupe tel rang dans ma société. Je veux rentrer dans ton ciel. Il dit, non. Mais étant coupable, Dieu a pourvu la réponse. Dieu a pourvu le remède pour le péché de l'homme. Jésus est venu mourir à la croix. Et il dit, la justification de Dieu s'obtient par la foi. Avez-vous fait cet acte de foi-là pour dire, oui, Dieu, tu as envoyé ton Fils mourir à la croix pour que moi, je puisse avoir la vie éternelle, pour me réconcilier avec toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu, Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que tu es Dieu le Créateur. Parce que Paul, c'est ce qu'il mentionne dans Romains, il dit, personne ne peut dire qu'on n'a pas entendu parler de Dieu. Personne ne peut dire que je n'ai pas entendu parler de Dieu à quelque part. Il dit que tu sois dans le fin fond de l'Afrique ou en Chine, dans le fin fond. Quand tu regardes la création, tu peux louer Dieu par ça. Il n'y a pas de raison pour dire que je ne connais pas Dieu. Dieu s'est manifesté aux hommes. Dieu a créé toutes choses. Par la création, tu peux réaliser les prouesses de Dieu et dire, Seigneur, je te loue. Parce que l'homme ne peut pas faire ce que je vois. C'est toi qui l'as fait. L'apôtre Paul, il mentionne la nécessité de la conversion. La nécessité de se convertir. La nécessité de faire ce pas de foi. C'est-à-dire aller chercher ce que Dieu a rendu disponible aux hommes, le salut en Jésus-Christ. Le salut est disponible, Dieu l'a pourvu. Mais ça nous prend cet acte de foi, ce pas pour dire, Seigneur, oui, ça c'est pour moi, je le crois, je le prends pour moi. Pardonne-moi, pardonne mes péchés, je vais vivre pour toi. Crois-tu que Dieu existe? Crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu? Crois-tu que Jésus-Christ était mort pour tes péchés et qu'il était ressuscité des morts? Si tu n'as pas fait ce pas de foi, je te le souhaite. J'aimerais qu'on tourne dans Actes chapitre 26. L'apôtre Paul, dans Actes chapitre 26, il est emprisonné en Macédoine, à Césarée plutôt. Il est en prison à Césarée et on l'amène devant le roi Agrippa. Vous savez, l'apôtre Paul est emprisonné, mais là il faut qu'il se défende, il faut qu'il sauve sa face. On l'amène devant le roi Agrippa. Et d'après moi, tu sais, quelqu'un d'autre, tu vas dire, ben là, il faut que je prononce tes belles paroles, tu sais, pour gagner la confiance du roi, pour que je puisse sortir de ces chaînes-là, pour que je ne sois pas lié. Mais Paul, il ne fait pas de compromis. Il explique au roi Agrippa réellement ce à quoi il croit. Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur terre? Qu'est-ce que Jésus a fait dans sa vie? Paul explique comment lui, il était connu à Jérusalem. Tout le monde connaissait Paul. Il savait que Paul persécutait les églises, les gens le savaient. Il donne un témoignage, il dit, c'est moi qui persécutais les églises, c'est moi qui persécutais les chrétiens juste à l'extérieur de nos frontières, c'était moi, vous saviez ça. Mais un jour, Jésus-Christ m'a rencontré sur le chemin de Damas, et Christ m'a parlé. Il m'a demandé d'arrêter de persécuter son église, il m'a demandé d'arrêter de le persécuter. Et aujourd'hui, il a fait de moi son ministre pour annoncer ce qu'il a fait pour chacun de vous. Et ce qui s'est passé ici, vous le savez, quand Jésus-Christ a été arrêté et crucifié, vous le savez, vous l'avez vu, vous avez entendu parler de ça. Paul y affirme sa croyance. Il affirme ce à quoi il croit. Et il dit devant le roi. Et là, Paul, il continue dans son discours. On voit au verset 28. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous devenez tel que je suis, à l'exception des liens. Paul, il donne son témoignage, le roi dit, ça se peut-tu que toi tu es en train d'essayer de m'amadouer là pour que je devienne chrétien? Paul dit que ce soit aujourd'hui ou tard, ce que Dieu veut que toi tu te convertisses. Ce que Dieu veut que vous soyez comme moi, que vous croyez en ce que je crois. Alors si vous n'avez pas fait ce pas de foi là, je vous le souhaite. Comme Paul l'avait souhaité au roi Agrippa. Je parlais avec une fille la semaine passée, je parlais de mes croyances, je parlais de ma foi. Et elle dit, voyons donc, Justin, Dieu n'existe pas. Il dit, Dieu n'existe pas. Je dis, comment ça, Dieu n'existe pas? Elle dit, ben, il n'existe pas. Qu'est-ce qui nous prouve que Dieu existe? Là, on parlait de la création et tout, et elle dit, elle croit à la science, elle est scientifique. Et il y a Gaëtan qui passait à côté de nous. Gaëtan a dit, ah, tu as dit que Dieu n'existe pas? Elle dit, non, ben, voyons donc, Gaëtan, Dieu n'existe pas. Gaëtan dit, je préfère croire en Dieu aujourd'hui. Et que demain, quand je vais mourir, s'il n'existe pas, c'est pas grave. Que de ne pas croire en Dieu et que demain, je veux me présenter devant lui qui existe réellement, il va me juger. Il dit, c'est qui le plus pire? C'est qui le plus pire de nous? Je trouvais ça bon. Je préfère être naïf aujourd'hui de croire en Dieu, de mettre ma confiance en Dieu. Demain, s'il n'existe pas, c'est pas grave. Ça va enlever quoi dans ma vie? Comprenez-vous? Dieu existe. C'est vrai qu'il existe. Mais l'image qu'on venait à la fille, juste pour dire, c'est plus pire pour toi de croire à rien et que demain tu te retrouves dans le trouble. Parce que Dieu va te juger. Tu vas te présenter devant Dieu, il va te juger. Êtes-vous sauvé? Si aujourd'hui je peux dire que je suis sauvé, est-ce que c'est parce que j'ai eu une ferme conviction. Est-ce que c'est parce que j'ai eu une adhésion totale en Dieu, une conviction totale où je sais que Jésus est le Fils de Dieu, d'après ce qui est écrit, d'après ce que j'ai lu, d'après ce qu'on m'a parlé, je sais qu'il est le Fils de Dieu, je crois à ça. Peu importe la tempête, peu importe ce qui arrive dans ma vie, je sais que Dieu existe, je sais que Jésus est le Fils de Dieu et je lui donne ma vie. Est-ce qu'on a fait ça? Ou encore, je comprends, c'est ça, ce qu'il a fait, c'est correct. Je suis enfant de Dieu. Sur quoi est basé mon salut? C'est quoi les faits sur lesquels mon salut est basé? Et c'est sur le sacrifice à la croix. Est-ce que je crois à ça? Est-ce que vous croyez à ça? Et si cette conviction est vraie? De la même manière qu'on croit à notre médecin, aujourd'hui, si on va devant le médecin, on croit à notre médecin. On a la confiance, le médecin mérite notre confiance. Aujourd'hui, votre argent, quand vous le prenez, vous le déposez à la banque, vous vous inquiétez pas que la banque va prendre votre argent. Je ne parle pas des placements qui s'effondrent. Mais quand vous prenez votre argent, vous mettez en banque, on a confiance en nos institutions financières. Hey, regardez, vous dormez chez vous, votre argent est ailleurs, c'est quelque chose. C'est parce qu'on a confiance aux institutions financières. Quand je monte dans mon auto, j'ai confiance, je sais qu'il va me rendre à destination. On a plus confiance aux choses de la terre. On a plus confiance aux institutions qu'on a bâties avec nos mains qu'on peut avoir confiance envers le Seigneur. Avez-vous confiance en Dieu? Quand vous êtes venu au Seigneur, c'est quoi la confiance que vous aviez de Dieu? Et oui, la personne qui a placé sa confiance en Dieu, qui a eu les sacrifices de Jésus par le moyen de la foi, est chrétien. Nous le sommes. On est des chrétiens, des enfants de Dieu. Et maintenant que je suis sauvé, que je comprends ce que Dieu a fait dans ma vie, autre chose, je tourne vers Dieu et me dis, obéis, marche avec moi, marche dans ma parole. La confiance que tu as faite en moi pour croire que je suis ton sauveur, mais regarde, manifeste-le maintenant dans ta vie. Même dans le trouble, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, prouve aux gens que la confiance que tu as en moi est vraie. Que je ne suis pas seulement le Dieu de circonstances, que je suis ton Dieu. Que c'est moi qui dois t'accompagner dans toute ta vie. Dieu nous demande d'obéir à sa parole. Comment réagis-tu au commandement de Dieu? Comment réagis-tu face aux tentations auxquelles nous sommes confrontés? Est-ce que le commandement de Dieu, c'est quelque chose que je trouve lourd dans ma vie? Est-ce que l'obéissance que Dieu me demande de ta parole, c'est quelque chose qui pèse sur moi? Ou facilement, quand arrive la tribulation, je m'effondre? Ou encore, l'obéissance que Dieu me demande, c'est quelque chose qui me rassure, qui me montre que finalement, Dieu ne peut pas m'abandonner. Car dans Jean, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Dieu veut qu'on demeure en lui, qu'on reste attaché à lui. L'obéissance à Dieu, c'est quelque chose qui nous aide à faire face aux défis de tous les jours dans notre vie. Si le monde d'aujourd'hui dénigre l'autorité de Dieu, le croyant, lui, comprend que le Créateur a le droit et le pouvoir de conformer toutes circonstances à sa volonté et qu'il s'attend à un certain comportement du chrétien, effectivement. Les commandements de Dieu, est-ce que ça semble trop difficile ou trop coûteux pour moi? Et s'il y a une guerre dans moi entre obéir ou non aux instructions de Dieu? L'obéissance à Dieu signifie d'écouter Dieu. L'obéissance à Dieu signifie consentir à ce que Dieu me dit. L'obéissance à Dieu signifie comprendre le plan de Dieu dans ma vie. Et l'obéissance à Dieu, ça veut dire céder à Dieu ce à quoi j'ai toujours pris le contrôle. Dieu veut qu'on laisse nos vies. Dieu veut qu'on s'abandonne à lui. Dieu veut qu'on lui fasse confiance. La foi, c'est la confiance totale. La confiance qu'on peut avoir à Dieu. La foi, ce n'est pas quelque chose de passif. La foi n'est pas passive. Je suis sauvé, je suis assis, c'est ça. J'ai la foi. Mais la foi, c'est l'action. Dieu veut nous voir en action. Dieu veut te voir en action dans son œuvre. Dieu veut te voir en action dans ta vie de tous les jours. Est-ce que Dieu est présent dans ta vie tous les jours quand tu te lèves? La confiance envers Dieu, comment tu le manifestes tous les jours dans ta vie? Quand les gens te voient, est-ce qu'ils voient en toi quelqu'un qui a confiance, qui a l'assurance, qui a la sécurité, qui sait où il s'en va? Ou plus quelqu'un qui est chancelant, quelqu'un qui n'est pas trop sûr. Je ne suis pas trop sûr de ce qui se passe. Je ne suis pas trop sûr de ce que je vis ici. Pas trop sûr. Dieu veut qu'on lui fasse confiance. La foi, c'est cette confiance qu'on peut avoir de Dieu. Plus que la confiance qu'on place dans notre médecin, plus que la confiance qu'on place dans nos institutions financières, Dieu veut qu'on lui fasse confiance. Vous savez, les enfants d'Israël, avant de rentrer en terre promise, Dieu leur a fait des recommandations. Dieu leur a donné des commandements. Dieu voulait qu'ils obéissent à sa parole. Dieu dit, quand vous allez rentrer, regardez les commandements. Je veux que vous marchiez, que vous obéissiez à ça. Et pour Dieu, l'obéissance amènerait la bénédiction. Mais la désobéissance amènerait la privation de bénédiction. Dieu savait que si ses enfants obéissent à lui, obéissent à sa parole, il savait toutes les bénédictions qui les attendaient. Mais la désobéissance, par contre, fermerait le robinet. Ce n'est pas parce que Dieu est mauvais, parce qu'il les aime. Ça donne quoi? Continuer à nourrir, continuer. Ce que je dis, ça donne quoi? De continuer à donner à un enfant tout ce qu'il se demande, tout ce qu'il te demande, même si ce n'est pas bon pour lui, mais comme il a demandé, je lui donne tout. Malgré qu'il n'obéit pas, il n'écoute pas ce que je lui dis, il n'écoute pas la direction que je veux lui donner pour son bien. Ça sert à quoi de continuer à donner, à le gâter? Je ne pense pas que c'est une façon d'aider cet enfant-là. La bonne façon d'aider cet enfant, c'est de fermer le robinet. Quand il va aller réaliser quelque part que l'eau ne coule plus, il reviendra vers le robinet pour dire « c'est quoi que se passe ?» C'est la même chose avec Dieu. L'obéissance donne les bénédictions. Mais la désobéissance ferme le robinet de Dieu. Où Dieu veut qu'on revienne à la case de départ pour regarder à lui, pour réparer, pour qu'il ouvre le robinet. Et ça, c'est vrai pour nous. Si ça a été vrai pour les enfants d'Israël, c'est vrai pour nous aujourd'hui. En choisissant de désobéir à Dieu, nous disons en fait que nous ne lui faisons pas confiance et nous perdons notre intimité avec Dieu. En choisissant d'obéir, nous choisissons l'intimité avec Dieu et recevons le meilleur pour nos vies. Dieu sait ce qui est de mieux pour toi. Dieu sait ce qui est de mieux dans ta vie. Dieu sait pourquoi il t'a mis sur terre. Et quand tu as décidé de faire confiance en Jésus, de t'attacher à lui, Dieu savait ce qu'il y avait de meilleur pour toi dans ta vie. Et il te demandait juste de faire confiance, de continuer à marcher avec lui. Où est ton niveau de confiance avec le Seigneur? Dieu montre à son peuple comment vivre et s'attendre de lui, qu'il lui obéisse pour sa bénédiction, sa protection et son épanouissement. En choisissant d'obéir, effectivement. Une question que j'aimerais nous poser ce matin, quels sont les défis auxquels tu fais face aujourd'hui? Sais-tu où Dieu veut t'amener avec ces défis-là? Peut-être que présentement, tu fais face à plusieurs défis dans ta vie. Est-ce que tu sais où Dieu veut t'amener dans ces défis-là? Comment tu réagis face à ces défis-là? À quoi t'attends-tu dans ces défis-là? Vous savez, c'est quoi la réponse? Ta décision. La décision que tu prends aujourd'hui face à ces défis déterminera ton succès ou ton échec. Quand tu fais face aux défis, la décision que tu prends, c'est pile ou face. Soit ça va t'amener au succès, soit ça va t'amener à l'échec. Mais quand tu prends ta décision de marcher selon tes voies, de marcher selon toi, tu es capable. De marcher selon ta connaissance, ta compréhension de la chose. Et mettre Dieu à côté. Souvent, c'est vous à l'échec. Mais lorsque tu obéis à Dieu, tu lui fais confiance, tu lui remets les défis auxquels tu fais face, Dieu t'éclairera. Dieu te montrera la bonne voie. L'obéissance doit être la priorité dans ta vie. Fais confiance à Dieu pour tout ce qui concerne ta vie. Fais-lui confiance. Y a-t-il un domaine de la vie que Dieu est incompétent? Moi, je fais confiance à mon médecin quand je vais le rencontrer. J'espère qu'il n'est pas compétent dans tous les domaines de la vie. Mon médecin aujourd'hui, peut-être il est pourri dans les finances, dans le service bancaire, le service financier. Peut-être mon médecin n'est pas capable de vendre une maison, il n'est pas représentant. Mais lui, il y a un domaine. Je ne dis pas qu'on ne fait plus confiance à nos médecins. Là. Demain, ça va mal, c'est chaque fois là à l'hôpital. Là. Mais ce que je veux mentionner, que la compétence de l'homme est limitée. Mais Dieu, il n'est pas limité. Dieu est compétent dans tous les domaines de ta vie. Quel est le domaine où tu as des défis présentement? Confie-toi au Seigneur. Et la bonne chose, il faut attendre de Dieu la réponse. Il faut s'attendre à Dieu pour la réponse de la situation à laquelle on fait face. Autre chose, c'est de méditer la parole de Dieu et d'écouter ce que l'Esprit de Dieu nous communique. D'être sensible à la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, de se nourrir de la parole de Dieu. Je lisais ce matin, on dit, la foi vient de, et ce qu'on entend vient de, ce que les Écritures nous disent. Quand je suis proche de la parole de Dieu, quand je suis proche des Écritures, mais ça augmente ma foi. Je comprends ce que Dieu veut, je comprends le plan de Dieu dans ma vie, et je peux avancer avec le Seigneur. Autre chose, je ne peux pas parler de la foi sans parler de la prière. Pour moi, la foi et la prière, ça va ensemble. Quand j'ai la foi en Dieu, quand j'ai confiance en Dieu, j'ai le goût de m'approcher de lui. J'ai le goût de lui parler. J'ai le goût de lui dire ce que j'ai dans mon cœur. Parce que je sais que c'est lui la solution. Parce que je sais que c'est lui qui a le remède. Parce que je sais que c'est lui qui va m'amener dans la bonne voie. Je dois lui dire ce que je ressens. Je dois lui dire ce que je vis. Mais lorsqu'on n'a pas confiance en Dieu, excusez-moi, c'est plate de dire ça de même, mais c'est vrai. Lorsqu'on n'a pas confiance en Dieu, ce qui arrive, c'est qu'effectivement, on n'a pas le goût de prier. La prière, pour nous, ça ne nous dit rien. Pourquoi je dois prier? Quand je prie, est-ce que j'ai confiance en Dieu? Est-ce que je crois que Dieu a le pouvoir de me donner ce que je lui demande? Il y a une différence entre savoir que Dieu a le pouvoir et croire qu'il a le pouvoir de te donner ce que tu lui demandes. As-tu cette confiance-là de croire que Dieu va te donner ce que tu lui demandes ou tu sais qu'il peut le donner? Je sais que Dieu a le pouvoir. Je sais que Dieu peut me donner. Tout le monde peut tout savoir. Là. Mais croire, c'est encore ce mouvement, ce pas de foi qui va me distinguer des autres. Oui, on sait tous, mais moi, je crois qu'il va me le donner. Il va le donner à moi parce que j'ai confiance en lui, parce que je sais que c'est lui mon pourvoyeur, c'est lui qui va pourvoir à mes besoins. C'est avec quelle attitude que je vais vers Dieu. Lorsque je demande quelque chose à Dieu et que je me dis, si ça le tente, il me donnera. Si ça le tente pas, il ne me donnera pas. Ou encore, je vais vers Dieu, je prie, mais j'essaie de prier. Je ne sais pas si je veux la voir, mais je prie quand même. Je ne sais pas si c'est possible, mais je prie quand même. Le doute. Le pire ennemi de la foi, c'est le doute. On peut lire dans Jacques. J'aimerais quand même qu'on tourne, qu'on aille voir dans les Écritures. Jacques, chapitre 1. Jacques chapitre 1, on va lire le verset 5 à 8. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Il dit, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il demande à Dieu, Dieu va le donner. Il dit, mais qu'il la demande comment? Avec foi. C'est beau ça, j'aime ça. Qu'il la demande avec foi, sans douter
car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies.
Hey, c'est grave ça. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Tu demandes quelque chose à Dieu, tu n'as même pas confiance, tu doutes. Est-ce que je vais l'avoir? Tu n'es même pas sûr. Tu dis, ben, je demande quand même. Dieu dit, tu es un homme inconstant. Tu n'as pas cette ferme assurance-là que je vais demander à Dieu, il va me le donner. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas tout ce que je demande à Dieu, il va me le donner. Demain, je vais l'avoir. Mais Dieu va me donner ce qui est bon pour ma vie. Si je demande et que je ne l'ai pas reçu, c'est parce que dans le plan de Dieu que je ne puisse pas avoir cette affaire-là. Et ça, c'est encore la confiance. Il faut que je croie que Dieu va me donner ce qui est bon pour moi. Si j'ai demandé et que je n'ai pas reçu, c'est parce que Dieu est fidèle. Je crois en lui. Il y a toute ma confiance. Je lui ai donné toute ma confiance. C'est ça. Où est mon niveau de confiance avec le Seigneur? Si aujourd'hui sur 10, on prend l'échelle de 10, votre niveau de confiance au Seigneur est à quel point? Votre foi se situe entre où? Répondez-moi pas. Pensez dans votre cœur. Niveau de confiance, ou quand je m'approche de Dieu, quand je vais vers Dieu pour lui demander quelque chose, quand je vais vers Dieu pour lui présenter mon cœur, c'est quoi le niveau de confiance? Jusqu'où je sais qu'il va me répondre? Parfois, on arrive à limiter Dieu. Il peut faire ça, il ne peut pas faire. Je ne crois pas à ça. Dieu est souverain. Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Ce n'est pas à moi de limiter Dieu. Je vais demander à Dieu, si ça lui plaît, il va me le donner. Si ça ne lui plaît pas, il ne me donnera pas pour mon bien. Je fais confiance. Où est mon niveau de confiance avec Dieu? Où est votre niveau de confiance avec Dieu? La prière, c'est important. Et dans Jacques, toujours, le Seigneur nous parle de la prière du juste qui a une grande efficacité. La prière de la foi du juste qui a une grande efficacité dans Jacques 5. On ne tournera pas, vous irez lire chez vous. Frères et sœurs, la confiance est quelque chose qui est très important. Vous savez quoi? Dans notre société, la confiance se mérite difficilement, mais elle se perd vite. Mais Dieu, il se rend disponible à toi. Il veut que tu le fasses confiance. Et jamais qu'il va te trahir. Jamais qu'il va trahir la confiance que tu as faite en lui. Peu importe les situations. Si une journée ça a été difficile, ce qu'il veut que tu reviennes à lui, il va te répondre dans sa main. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel a fermé les voies d'un homme. S'il tombe, il n'est pas terrassé car l'Éternel lui prend la main. Fais confiance à Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, c'est pas bon de s'appuyer sur les hommes, il faut s'appuyer sur Dieu. Est-ce que tu t'appuies sur Dieu dans ta vie? Est-ce que Dieu prend la première place dans ta vie? Quand tu vis des épreuves, quand tu vis des moments difficiles, vers qui tu te tournes? C'est quoi la place que Dieu prend dans ça? Considère les provisions qui sont disponibles de la part du Seigneur. La foi pour moi, les épreuves pour moi, c'est la nourriture de la foi. Quand je vis les épreuves, quand c'est difficile, parfois je braille, j'ai des larmes qui coulent, c'est difficile. Le matin, je me lève, je dis, c'est la nourriture de ma foi. Quand je passerai à travers cette épreuve, Dieu va me faire grandir dans ma foi. C'est vrai que les épreuves ne sont pas toujours faciles à vivre, mais l'attitude que nous avons face aux épreuves peut nous aider à sortir victorieux. Et le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il n'y a aucune épreuve qui peut nous dépasser. Là. Dieu pourvoit toujours le moyen. C'est merveilleux. Il y a toujours une provision pour nous. La provision de Dieu est toujours là. Mais quand je suis dans la situation difficile, c'est quoi l'attitude que j'ai? Vous savez, la parole de Dieu dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ça veut dire qu'un chrétien peut se mettre en colère. Un chrétien peut se fâcher. Mais la parole me dit, ne pêche point. Ce que Dieu regarde, c'est la conséquence de ta colère. Comment tu réagis quand tu es en colère? C'est quoi la conséquence? Qu'est-ce qui arrive après ta colère? Dieu regarde la conséquence de ta colère. Oui, le chrétien peut subir des épreuves. Ça va être difficile. Mais l'attitude
c'est quoi l'attitude, c'est quoi mon attitude face à ça? Quelle est la place que je laisse à Dieu dans les épreuves que je vis? Peut-être chez nous, on peut lire dans 1 Pierre chapitre 1, versets 6 à 8. 1 Pierre chapitre 1, versets 6 à 8. Je parlais des épreuves qui sont comme la nourriture de ma foi. Les épreuves m'aident à grandir. Et ma foi, Dieu va la fortifier quand je sors victorieux dans les épreuves. Frères et sœurs, on est des humains, on va dire ça. Mais il y a eu des humains aussi qui ont existé avant nous. Et ces humains-là ont eu la victoire avec le Seigneur lorsqu'ils ont mis en exergue leur foi. Hébreux chapitre 11. Tantôt, je lisais la définition de la foi selon le dictionnaire. Mais dans Hébreux chapitre 11, la parole de Dieu nous dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » On a un chant qu'on chante, « Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. » Mais dans la semaine, on marche plus par la vue que par la foi. Quand il arrive les épreuves, on marche plus par la vue que par la foi. Je regarde, je fais des calculs, ça ne se peut pas. Non, ça ne marchera pas. Si mon intelligence m'a déjà dit que ça ne marchera pas, je ne peux pas croire que Dieu, pour lui, ça peut marcher. On se fie plus à notre intelligence. Et où est la place de Dieu dans notre raisonnement? Les enfants d'Israël arrivent, on voit Jéricho, quand le mur de Jéricho est tombé, les enfants d'Israël arrivent, Dieu leur donne un plan qui, aux yeux des hommes, ne peut pas fonctionner. Incroyable. Le plan que Dieu leur présentait, intellectuellement, on va dire, hi, c'est pas un bon chef d'armée, ça. Le plan de guerre qu'ils présentent, là, on envoie d'abord nos meilleurs, ils vont aller là-bas, on va écraser les meilleurs, mais qu'est-ce qui va arriver avec les pas bons? Peut-être on est mieux d'aller les fatiguer d'abord avec les pas bons, et puis nos meilleurs vont aller. Intellectuellement, ça ne marchait pas. Mais Dieu savait que c'était le plan qu'il fallait pour son peuple. Dieu sait c'est quoi le plan qu'il faut pour ta vie. Même si intellectuellement ça te semble difficile, fais confiance à Dieu. Avance par la foi. On ne lira pas tout Hébreux 11 au complet, mais je vais vous citer quelques noms des frères qui par la foi ont eu des victoires dans leur vie. La foi, c'est un thème, c'est un concept, c'est vrai, on dira ça. C'est pas la fleur. C'est pas une chaise. C'est pas un écran. Tu sais, si on parle d'écran, on sait c'est quoi l'écran. Mais la foi, si je parle de foi, il est où René? Il est nulle part. Mais comment on sait que lui a la foi en Dieu? C'est à travers ses œuvres, à travers ce qu'il manifeste dans sa vie. On peut voir, lui a confiance en Dieu. Et il y a eu des gens qui ont fait confiance en Dieu dans leur vie. Et à travers leur vie, les gens ont vu l'œuvre de Dieu. On parle d'Abraham. Abraham, Dieu lui fait une promesse. La Bible dit qu'Abraham était usé. User, le terme grec, c'est kairos. S'il était fini, il était vieux. Mais Dieu lui dit que de toi sortira toute une prospérité, toute une génération d'hommes. Tu vas avoir un enfant. La Bible dit qu'il est usé. Mais Abraham crut à ce que Dieu avait dit. Et Sarah, sa femme, était vieille. Mais ils ont cru à la promesse de Dieu. On a vu Job. On connaît tous l'histoire de Job. Ce qu'il a vécu, je ne sais pas si quelqu'un parmi nous a vécu ce que Job a vécu, mais on a vu cet homme de Dieu, comment malgré la tribulation, il faisait confiance à Dieu. Il mettait sous son cœur et disait, c'est mon Dieu, c'est mon Dieu. Il avait confiance en Dieu. Et Dieu l'a sorti de là, dans les épreuves qu'il vivait. Élie, Josué, les gens qui ont osé, ils sont en train de combattre. Il n'y a pas à négocier avec Dieu là, pour savoir. Il demande au soleil de s'arrêter. Toi, arrête-toi. C'est par la foi qu'il a fait ça. Parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Il a osé demander. Et Dieu lui a accordé ce qu'il a demandé. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Eux, c'était des hommes spéciaux, je pense. Il y avait trois bras, les gens qui étaient avant nous, René. Il y avait cinq têtes. Je pense qu'il était comme nous. Je pense qu'il croyait au même Dieu qu'on croit aujourd'hui. Pourquoi pas toi?
pourquoi pas moi? À confiance. À confiance. C'est quoi ton niveau de confiance envers le Seigneur? Crois-tu que Dieu peut faire au-delà de ce que tu penses dans ta vie? Quand ça va mal. Parfois on dit, je mange bien, je dors bien, ma famille va bien, ça va bien avec mon épouse, ça va bien à mon travail, mon commerce va bien. Je ne vois pas qu'est-ce que je vais encore demander à Dieu. Il m'a béni. Ouais, si t'as béni, bénis-le. Dis-lui merci. Honore-le. Si je n'ai pas cette habitude d'aller vers Dieu pour le bénir, pour lui dire ce qu'il est, quand ça va bien, quand ça ira mal, je déciderai d'aller vers Dieu. Et si je n'ai pas la réponse tout de suite, Dieu, commence à être dur avec Dieu. Là. J'ai toujours dit, Dieu n'est pas une machine distributrice. Où j'ai besoin de ma canette de coke, je vais devant la machine, rentre mon argent, je prends ma canette, je suis parti. Dieu n'est pas une machine distributrice. Dieu veut avoir une relation avec ses enfants. Et quand tu es en relation avec Dieu, quand ça va mal, Dieu le sait. Tourne-toi vers lui, dis-lui ce qui se passe dans ta vie. Et Dieu va agir. Plutôt que de rien savoir de lui, parce que ça va bien dans ma vie, et le jour que ça ira mal, je suis là. Tu vois là, ça ne marche pas. Je veux la réponse demain, dans une semaine. Une semaine est passée, il n'y a pas de réponse. Dieu ne m'écoute pas. Dieu ne répond pas à mes prières. Pour terminer, l'homme, notre homme qui avait eu une année difficile, à un moment donné, il avait accepté le Seigneur. Il a accepté le Seigneur et il lisait dans la parole de Dieu que Dieu guérit les malades. Il savait que s'il était malade, il pouvait se confier à Dieu. Qu'il pouvait aller voir son médecin plutôt que de juste croire à son médecin, qui pouvait demander à Dieu d'utiliser son médecin. Et notre homme, juste chercher ce que je m'enseigne, il savait que même si un jour il perd son travail, il savait que c'est Dieu qui pourvoit. Dieu lui donnerait un autre travail. Et il lisait dans Matthieu, Dieu disait, même les oiseaux du ciel, qui ne sèment ni ne moissonnent, je les nourris. Combien plus forte raison toi? Il pouvait savoir que Dieu était le pourvoyeur, Dieu pouvait le nourrir. Et quand il pensait aux policiers, aux pompiers et à l'armée, notre homme savait maintenant que Dieu était celui qui assurait la protection. Quand Dieu il avait la protection, il avait la sécurité. Et il savait que Dieu était fidèle, il pouvait compter sur Dieu. L'adjectif du mot foi, en grec, c'est fidèle, pistéis. Fidèle, quelqu'un qui a la foi en Dieu, quelqu'un qui croit en Dieu, c'est un fidèle, fidèle à Dieu. C'est où notre niveau de fidélité avec Dieu? L'apôtre Paul, quand il a dit, je vis dans la foi au Fils de Dieu, parce qu'il avait réalisé l'état dans lequel il était, quand il était perdu. Quand Christ l'a rencontré, il a compris c'était quoi l'importance d'être sauvé. Et lorsqu'il a réalisé qu'il était sauvé, qu'il était épargné de l'enfer et du jugement de Dieu, toute sa vie, il pouvait louer Dieu. Il pouvait défendre le nom de Dieu. Et il pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On a un chant qu'on chante souvent, crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, je vis par la foi en lui, qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Mon seul espoir, c'est Christ qui vit en moi. C'est l'apôtre Paul qui l'a dit. La dernière strophe dit, « Maintenant ma vie est cachée en lui. Il paraîtra et avec lui je paraîtrai aussi. Mon seul espoir de la gloire, c'est Christ. » Christ était le centre de la vie de Paul. Et il pouvait dire ces paroles-là. Ce matin à l'école de dimanche, j'écoutais René, c'est la même chose, la persévérance. Que Dieu vous bénisse. Qu'on puisse réaliser comment on a besoin de faire confiance à Dieu. Pas la confiance intellectuelle, parce qu'on sait, mais une confiance qui vient du cœur, parce qu'on croit que Dieu peut le faire. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole aujourd'hui. Merci pour le privilège que tu nous donnes d'examiner les Écritures, de voir comment tu es bon, comment tu as tout pourvu pour nous. Seigneur, je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas ce matin dans cette église, ceux qui ne sont pas sûrs qu'ils sont sauvés, qu'ils s'en vont au ciel, que tu puisses parler dans leur cœur et qu'ils le mentionnent, Seigneur, avant de sortir d'ici. Comme l'apôtre Paul le souhaitait au roi Agrippa, Seigneur, je te souhaite à ceux qui sont ici que tu puisses leur donner la grâce de te connaître, que leur cœur se tourne vers toi, qu'ils crient à toi, qu'ils viennent chercher ce que toi tu as rendu de disponible pour eux, la vie éternelle en ton Fils Jésus. Seigneur, je veux aussi te prier pour ceux qui te connaissent. Oui, Seigneur, parfois c'est difficile. Oui, Seigneur, parfois on traverse des moments difficiles dans notre vie, dans nos couples, au travail. Mais Seigneur, apprends-nous à avoir confiance en toi, à te faire confiance, totalement confiance, entièrement confiance, parce qu'on sait que tu es digne de confiance. Seigneur, fais grandir notre foi avec toi. Seigneur, aide-nous à réaliser qui tu es tous les jours dans notre vie. Aide-nous à réaliser l'intimité qu'on peut avoir avec toi, de développer cette intimité, Seigneur. Que tout serve à ta gloire encore ce matin. Bénis tes enfants. Aide-nous à être de lumière pour toi, Seigneur, et aide-nous à refléter ton nom. Seigneur, plutôt que de s'accrocher sur le matériel du monde, mais aide-nous à s'accrocher à toi et de regarder à toi. Parce que tu reviens bientôt nous chercher, on sera dans ta gloire. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen.